Loué et remercié soit le Seigneur. Nous avons écouté un psaume très merveilleux, oui, c'était. Oui. Et nous avons suivi de tout notre cœur. Pendant que j'écoute, je pense déjà à plusieurs autres écritures. Vous savez, chaque parole de Dieu est liée aux autres paroles de Dieu dans la Bible. Et l'une complète l'autre et jette de la lumière sur l'autre, montre les contextes pour lesquels nous sommes très reconnaissants. Quel psaume tu as lu, frère Rousse? Le psaume 143. Et là, nous allons encore au Nouveau Testament, ou je ne sais pas encore maintenant, mais Dieu le sait. C'est merveilleux. Quand on peut venir ainsi sans programme, en sachant que dans la présence de Dieu, nous allons bien. Je crois que nous avons déjà été bénis. Bénis étant conscient d'avoir reçu la grâce de Dieu dans ces jours d'écouter sa parole. Tout ce qui était caché a été révélé. Ce qui ne pouvait pas être compris peut aujourd'hui être compris. Ce qui ne pouvait pas être vu peut être vu aujourd'hui. Paul a encore écrit, nous regardons maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Et il dit, quand le parfait sera venu, les choses en partie aussi cesseront. Et alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. J'aimerais dire la chose suivante. D'un côté, nous attendons la perfection, la chose parfaite qui viendra, le parfait, c'est-à-dire la fin finale, complètement à la fin, incluant la rédemption, le changement de nos corps, l'enlèvement, la rencontre dans les airs avec le Seigneur et tout ce qui appartient à cela. D'un autre côté, nous osons dire dans la foi que le Seigneur nous a parfaitement révélé sa parole. Ce n'est plus des choses en partie. Pas, ce n'est plus lit ici, lit là, et un peu ici, un peu là. Non. Mais tel qu'il est écrit, révélé par le Saint-Esprit, passant de clarté en clarté, nous avons été conduits. Seigneur, exauce ma prière. Question. Quelle est ta prière? Psaume 143, premier verset, il a lu. Quelle est ma prière? Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Prête l'oreille à mes supplications. Quelles sont tes supplications? Qu'est-ce que nous demandons? Des centaines de choses qui sont éparpillées partout? Ou bien alors, une seule chose que nous avons sur notre cœur? Une seule chose. Ici, il nous a dit, Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. À cause de ta fidélité, exauce-moi selon ta justice. Je pense là à quelqu'un qui priait, qui était quelqu'un qui priait beaucoup dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelqu'un de moins que le prophète Daniel, un intercesseur qui a exprimé sa prière pour la maison de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour tout ce qui a été en relation avec Dieu. Et pour le peuple d'Israël, c'est ce qu'il avait exprimé dans ses prières devant la face de Dieu. Et nous savons ce qui est écrit. Quelque part, nous allons le trouver. Il est écrit, alors que tu avais commencé à prier, qui a ce verset? Où est-ce que c'est écrit? Alors que tu avais commencé à prier, je me suis levé. pour venir à ta rencontre. On va le retrouver, c'est écrit quelque part ici dans Daniel. Peut-être chapitre 8. C'est le chapitre 9. Aujourd'hui, on fait une heure biblique. Chapitre 9. Oui, alors je regarde maintenant, chapitre 9. Oui, j'aurais dû le voir en fait. Chapitre 9. Je lis à partir, dès le début, dès le verset 20. Daniel 9, verset 20. Tandis que je parlais encore ainsi, que je priais, que je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et que je présentais mes supplications pour la montagne sainte de mon Dieu devant l'Éternel, mon Dieu. Comme je faisais encore ma prière, l'homme Gabriel, que j'avais déjà vu auparavant dans la première vision, vint précipitamment voler vers moi au moment du sacrifice du soir. Il voulait m'éclairer et s'adressa à moi en ces termes. Daniel, je suis déjà venu ici pour t'aider à comprendre correctement. Comme tu commençais à prier, une parole de Dieu a été prononcée. Comme tu commençais à prier, et je suis venu pour te renseigner. Car tu es un homme particulièrement aimé. Sois donc attentif à la parole afin de bien comprendre la révélation. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque tu t'es mis à prier, il priait pour quoi? Pour la montagne de mon Dieu. Qu'est-ce que c'était? Dieu avait choisi différents endroits. Il avait choisi Jérusalem, la montagne de Sion, qui est une partie de Jérusalem, comme la montagne des Oliviers est une partie de Jérusalem aussi, avec la différence que l'une est au nord et l'autre est probablement au sud. Mais elles font partie de Jérusalem. Daniel n'avait pas seulement prié, mais les choses de Dieu étaient sur son cœur, le peuple de Dieu, la ville de Dieu, tout ce qui concernait Dieu, il le portait dans son cœur. Et il priait pour ça. C'est peut-être ça que Dieu aussi l'a exaucé. Nous pouvons avoir des milliers de souhaits et même faire toute une liste et lire au Seigneur tout ce qu'il doit faire. Et nous nous étonnons quand il ne nous exauce pas. Je crois que si nous prenons à cœur cette prière et que nous prions dans le même esprit, Seigneur, ton peuple, ta parole, ta chose, ton œuvre sont sur notre cœur. C'est ce que nous t'apportons. C'est avec cela que nous venons devant ta sainte face, sans considérer comme les choses sont pour nous. Ce qui nous arrive, Daniel ne priait pas, Seigneur, que je ne sois pas encore une fois, j'étais au lion, à la fosse au lion, ou bien garde-moi devant toutes les épreuves qui pourraient m'arriver encore. Il s'est oublié lui-même. Il était lié avec les choses de Dieu à tel point qu'il pouvait s'oublier lui-même. Qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Celui dans le cœur, aussi dans la prière, le cœur, la bouche parle selon que le cœur est rempli. Ce qui est dans le cœur. Et si nous avons une prière selon le cœur de Dieu, que le Seigneur lui-même a envoyé l'ange Gabriel pour le renseigner, pour l'informer, s'il est dit ici. Au verset 21, comme je faisais encore ma prière, il n'avait même pas encore fini de prier. Il n'avait même pas encore dit Amen, mais Dieu avait déjà dit Amen au ciel. Dieu avait déjà dit Amen pendant qu'il priait, au milieu de sa prière. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi est-il. Dieu était en train déjà d'agir pendant qu'il priait encore, car Dieu voyait déjà la fin avant le commencement. Et il a même, au milieu de la prière, su déjà de quoi il s'agissait. Nous avons atteint l'état où nous pouvons abandonner à droite et à gauche les insensories des hommes, nos propres insensories, et dans le domaine religieux, dans le domaine du message, tout ce qui est fait, nous pouvons abandonner tout cela à droite et à gauche. Nous devons le faire, abandonner tout à droite et à gauche, et seulement et uniquement nous concentrer à la chose, aux choses qui nous ont été léguées par Dieu, c'est-à-dire de faire ce qui doit être fait par la prédication de la parole de Dieu et de porter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, nous le disons, comme Paul le disait, priez pour moi, priez pour nous, pour qu'il nous soit donné d'annoncer le mystère de Dieu pour lequel je suis, le prêcher librement et avec assurance pour lequel je suis enchaîné. Ça peut être possible que parfois, par des circonstances, nous sommes comme enchaînés. Mais ça, je vous le dis une chose. La révélation de Jésus-Christ ne peut jamais être enchaînée par qui que ce soit et plus retenir ou bien lier ce que Dieu a fait. A eu lieu dans la liberté et a délivré et rendu libre tout ce qui était lié. Qu'est-ce que Paul pouvait dire dans ce contexte? Je suis lié, mais la parole n'est pas liée. La parole est et demeure, reste libre. Elle est et elle rend libre. Elle rend libre, elle libère, elle affranchit. Celui que le Fils libère, il est réellement libre. Nous voulons alors retenir cela comme ça, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, que nous puissions ensemble, vraiment, prendre à cœur les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ça, c'est notre, que ça devienne notre, dans la prière, notre requête principale. Je sais que nous avons plusieurs choses que nous apportons au Seigneur dans notre prière, dans nos prières. Personne ne peut s'acquitter de ça. Nous sommes des hommes. Et, n'est-ce pas, nous avons plus de difficultés que nous aurions bien voulu en avoir. Mais si nous, dans ce point, si nous respectons cette parole, cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé, n'est-ce pas? Alors nous croyons, je crois, que si nous prenons la parole de Dieu dans la prière, à la première place, alors toutes les autres choses aussi nous seront accordées. Et si Dieu peut ordonner ces choses avec nous dans son royaume, alors il pourra aussi ordonner toutes les autres choses avec nous dans tous les autres domaines. Amen. Justement, que nous puissions prendre la parole, la chose de Dieu à la première place, comme Daniel l'a fait. Ce qui est merveilleux aussi, cette expression. Le verset 22, il voulait m'éclairer et s'adresse à moi, et s'adressa à moi en ces termes. Daniel, je suis déjà venu ici pour t'aider à comprendre correctement, pour t'aider à comprendre correctement. La parole ici, compréhension, me fait penser à Luc 24. Là, des disciples allèrent sur le chemin de Maus, n'est-ce pas? Les disciples d'Emmaüs allèrent et quittaient Jérusalem et parlèrent l'un à l'autre et disaient, mais es-tu le seul ici qui sait pas ce qui s'est passé dans nos jours ici à Jérusalem? Es-tu le seul? Et alors il a commencé à parler avec eux. Et leurs cœurs ont commencé à brûler. Et alors il leur a ouvert la compréhension pour les Écritures. Pour qu'ils puissent tout. Ce qu'il leur montrait par Moïse, par les psaumes et par les prophètes, pour qu'ils puissent comprendre correctement tout ce qui leur est exposé par les prophètes et Moïse et la loi. Et je vois dans tout son exposé, pas une seule question qui aurait été posée. Amen. Après l'exposé du Seigneur, ils n'ont pas posé une seule question. Pas une seule question a été posée. Après que le Seigneur ait commencé avec Moïse, les psaumes et tous les prophètes, tout, il a pu leur montrer tout ce qui s'était accompli à Jérusalem à l'époque. Pas une seule question a été posée après son exposé. Pas une seule interruption, rien n'a suivi. Quand le Seigneur parle, ce ne sont pas les questions qui sont posées. Là, les questions sont répondues. Et ils sont répondus tout et cela selon les Écritures. Selon les Écritures, ça c'est merveilleux et ça c'est bien. Il y a justement dans ce message beaucoup de questions, des hommes qui posent des questions, qui ont des questions. Et les questions qu'ils posent en général, je m'excuse si aujourd'hui un peu, je suis un peu... Ainsi, les questions, ceux qui posent des questions en grande partie sont à classer en tant qu'intelligentes, n'est-ce pas? Mais en général, elles sont insensibles. Mais je vais vous dire, là où le Seigneur parle, il n'y aura plus de questions insensées qui sont posées, mais là, toutes les questions sont répondues de la parole de Dieu. Et alors, nous sommes tous enseignés de Dieu et par Dieu. Alors, l'un n'a plus besoin de dire à l'autre, est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Non. Alors, nous avons tous compris parce que le Seigneur a parlé avec nous. Est-ce que nous pouvons tous aussi témoigner cela ainsi, par expérience? Alors que le Seigneur avait parlé avec nous, avait commencé à parler avec nous, c'était le commencement des réponses à nos questions, n'est-ce pas? Et soyez aussi reconnaissants, sincèrement. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas donné beaucoup de réponses pour ne pas dire, il nous a répondu à toutes nos questions nécessaires au salut? S'il y a quelqu'un encore qui vient et qui demande, mais d'où est-ce que Caïn a pris sa femme? Donc il savait dire qu'il n'a pas fait attention et il n'était pas là quand le Seigneur parlait de telles questions. Ne seront même plus posés. Non, si quelqu'un a fait attention, celui qui lit la Bible, il peut aussi trouver la réponse là-bas dans la Bible exactement, noir sur blanc. Mais nous ne voulons pas ici entrer dans ces choses. Nous lisons ici rapidement encore plus loin, au verset 23. Oui, peut-être les dernières phrases du 22e verset pour t'aider à comprendre correctement. Verset 22 à la fin, pour t'aider à comprendre correctement. Je voudrais, dans ce qu'il disait et dans ce qu'il fait, comprendre correctement. Toi aussi, comprendre correctement, toi aussi. Et pour cela, tel que ici le Seigneur a envoyé Gabriel à Daniel et que ensuite Daniel avait reçu le devoir d'écrire. Et ensuite, plus tard, nous pouvons lire de nouveau, au chapitre 12, verset 4. Mais toi, Daniel, garde sous clé ce qui a été dit et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup le parcourront et ainsi la connaissance augmentera. La révélation a été cachée et scellée jusqu'à la fin. Et nous vivons à la fin des temps. Et elle a été ensuite révélée maintenant, à la fin de ces temps dans lesquels nous vivons. Et Dieu a envoyé son esclave serviteur et il lui a donné la compréhension correcte sur les Écritures. Et que le Seigneur puisse, en ces jours-là aussi, me corriger devant vous tous en ce jour. Mais quand je lis les Écritures, les Saintes Écritures, alors je trouve le devoir de deux anges, Michaël et Gabriel, et ses devoirs sont différents et repartis. Michaël, l'ange pour Israël et qui combat l'ange qui combat, mais Gabriel qui a été envoyé, qui a toujours donné des renseignements, des informations. Il vint à Zacharie, par exemple. Il vint à Marie. Il vint à Daniel. Un homme lié avec la parole, avec ce qui est dit et ce ou avec ce qui doit être promis, ou bien alors dit, et, ou bien alors révélé. Je sais que frère Branham s'était toujours avait toujours voulu, il le dit dans sa prédication, bien alors il a utilisé cette expression toujours de nouveau. J'ai voulu demander à l'ange qui vient à moi, comment est-ce qu'il s'appelle? Toujours de nouveau, frère Branham l'a dit. Et alors, il a dit la prochaine fois, il a dit, j'ai de nouveau oublié de lui demander. J'ai de nouveau pas pu le faire quand la sainteté de Dieu est là. La crainte du Seigneur était si puissante que je ne pouvais même pas demander comment est-ce qu'il s'appelle. J'ai seulement entendu ce qu'il avait, écouté ce qu'il avait à me dire. C'était la crainte. C'était la sainteté. Un homme ne peut pas faire ce qu'il veut devant. Pas dans la présence de Dieu, non. En dehors de la présence de Dieu, oui, là, nous-mêmes l'avons vécu, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais dans la présence de Dieu, ça, je vous le dis. Alors là, ça cesse. Avec tout notre savoir et notre langage. Je pense là à cette expérience simple, mais très puissante. Très puissante. Le 3 décembre 1962. Vous savez, je vous l'ai dit, vous qui me connaissez, j'ai certains attributs et je suis très rapide. La patience n'est pas justement mon côté fort. Et le frère Branham parlait de la captivité allemande des prisonniers et à qui il avait rendu témoignage aussi, etc. Cela ne m'intéressait pas, absolument ne m'intéressait pas du tout. Bien au contraire, je me suis toujours un peu excité et je lui ai presque coupé la parole et je lui ai demandé, frère Branham, je voulais te demander quelque chose. Mais dès le moment, quand il a commencé à parler, je n'ai plus pu poser de questions. Et je n'ai plus pu parler. Il avait fini et c'était fini. C'était tout fini. Je pouvais plus parler. Mais avant cela, j'avais plus plein de questions. Et il y avait des choses que je voulais lui demander, que j'aurais pu dire plusieurs choses. Mais tout était fini. J'avais plus rien, plus rien. Je pouvais plus parler. J'étais assis là devant lui et j'ai fait qu'écouter ce qu'il disait. Je crois que ça, Dieu a conduit les choses ainsi. Ça, il faut que Dieu conduise les choses ainsi. Parce que imaginez-vous qu'un prophète de Dieu voit une vision et parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là, il y aurait quelqu'un, un homme nerveux là qui est excité, qui n'a pas son impatience sous contrôle et coupe la parole et pose la question. Qu'est-ce que ce serait? Non, pour moi, c'était une leçon très énorme. Même alors qu'il avait fini, je n'ai rien demandé. Et je n'ai rien pu dire, rien. Je suis assis là, touché, et étonné, saisi, impressionné. Cela m'a pénétré jusqu'à dans les os. Mais quand ensuite il a dit, frère Frank, en ce qui concerne le voyage de Paul à Jérusalem, tu n'as pas besoin de te faire de soucis. Ce voyage était parfaitement dans la volonté de Dieu. Alors là, je vous dis que c'est comme si un marteau était tombé sur moi. Presque. Car j'avais même pas pensé à cela. J'avais même pas pensé. Le frère Schmidt, le frère Rousse, vous tous qui êtes ici depuis des années, les frères et sœurs savent, je ne comprenais pas le voyage de Paul. Alors, ça va que je lisais les Saintes Écritures, les Actes des Apôtres, et particulièrement Jacques, n'est-ce pas, on dit à Paul, n'est-ce pas, tout le peuple parle de ce que tu as tourné le dos au judaïsme et que tu prêches et que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. leur disant de ne pas circoncire les enfants, etc. Et ensuite, tu fais un vœu, tu te purifies selon la loi, etc. Tu te rases la tête. Cet homme avait prêché depuis longtemps que la circoncision est rien et que de ne pas être circoncis, c'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création en Christ Jésus, une nouvelle création. Et après plusieurs années, il vient à Jérusalem et il se laisse ici raser la tête, purifier et faire un vœu. Donc tout selon la loi, comme s'il était encore sous la loi. À chaque fois que je lisais cela dans Actes apôtres 21, j'ai remis la tête et j'ai dit, mais Paul, quand je serai en haut et que je te rencontrerai, je te demanderai pourquoi est-ce que tu as fait cela. Oui. Et ici, un prophète est assis en face de moi, un prophète qui subitement par révélation me disait, en ce qui concerne le voyage de Paul à Jérusalem, ne t'inquiète pas. Ne te pose aucune question. Il était dans la volonté de Dieu. Tout ce qu'il a fait était dans la volonté de Dieu. Dieu peut cacher les pensées cachées de nos cœurs, même du passé. Il peut les faire ressortir. On est assis là, alors. Et on dit, oh Dieu, on pense, oh Dieu, devant toi, chaque homme est comme un livre ouvert. Et alors, celui qui dans Actes apôtres, suit l'histoire. Ensuite, il est écrit qu'après, les portes du temple furent fermées. Ça, c'était le sens. C'était le temps était arrivé pour que la chose soit fermée. Car Dieu, n'est-ce pas, avait depuis longtemps fait quelque chose de nouveau. Tout avait son sens et son objectif. Mais si nous, en tant qu'hommes, nous pensons humainement et pensons charnellement, alors où nous arrivons? Qu'est-ce que nous pourrons comprendre? Et là aussi, je n'ai pas demandé cela. Alors que frère Branham me disait, attends, avec sa distribution, jusqu'à que vous receviez le reste de la nourriture. J'ai rien demandé, j'ai pas compris. Mais je pouvais pas, j'ai même pas pu poser des questions, c'était impossible de parler. Même si j'avais commencé, c'était même pas possible de parler. Dans la présence de Dieu, le Seigneur parle. C'est lui qui parle. Et toi et moi, on écoute. Alors, selon la parole de l'Écriture, parle. Ton esclave serviteur écoute. Ça, c'est la grande différence. Il y en a beaucoup qui disent, oh, j'ai parlé. Oui. Mais alors, ça veut dire que Dieu n'avait pas parlé avec toi. Quand Dieu parle, alors nous écoutons. Et si nous écoutons bien, même si tout ce qui est dit, nous ne comprenons, nous n'avons pas compris, même si nous n'avons rien compris, nous allons nous le comprendre plus tard. Mais si nous avons bien écouté et croyons ce que le Seigneur a dit, alors le temps arrive où nous le comprendrons. Et la clarté nous sera accordée par le Seigneur lui-même. Je continue à lire ici sur les années 70, les 70 années de Daniel. Ils sont si clairs comme un homme à qui ils sont devenus clairs. Alors que nos frères, il n'y a pas longtemps, étaient d'ici dans certains pays, il y en a un qui disait ainsi, il y en a un autre qui disait comme ça, autrement. J'ai dit aux frères, c'est mieux de prier, prions au lieu que chacun expose sa propre façon de voir, car il est écrit dans Philippe, si quelqu'un est d'une autre opinion, alors qu'il puisse se laisser révéler cela par Dieu. Mais il y a certaines paroles clés qui nous accordent l'accès à tout le contexte par la grâce de Dieu, qui nous ouvre l'accès et nous accorde l'accès. Et nous n'allons pas venir à en parler. Nous venons à la fin. Il est écrit ici, je me répète, ici le verset 23, chapitre 9 de Daniel. Lorsque tu te mis à prier, une parole de Dieu est sortie. Et je suis venu te donner des informations. Car tu es un homme particulièrement aimé. Vous savez, alors que cet homme particulièrement aimé avait dit à Nebuchadnezzar, pas que en moi il y aurait une sagesse, plus de sagesse que dans un autre homme. Non, mais il y a un Dieu au ciel qui révèle les mystères. Ça, ce fut sa réponse. Pas je suis plus sage que tous les autres mages et docteurs et tout cela. Non, il pouvait dire qu'il y a un Dieu au ciel qui révèle tout. Je vous lis cela pour que vous puissiez savoir que c'est écrit. Daniel, chapitre 12, et pardon, chapitre 2. Je lis à cause du contexte, à partir de verset 26 jusqu'au verset 28. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel 2, verset 26, qui portait le nom de Belshazzar, « Es-tu vraiment capable de me faire connaître le songe que j'ai vu ?» Ainsi que son interprétation. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? Il s'agissait de deux choses. Il devait lui faire connaître le songe, lui raconter le songe, et ensuite son interprétation. Les 10 heures d'aventure, là, étaient des malins, n'est-ce pas? Ils ont dit, raconte-nous le songe, et nous allons te donner son interprétation. Et le roi pensait en lui-même, non, vous, trompeur, non, pas avec moi cette fois-ci. Dites-moi d'abord le songe, racontez-le-moi, que j'ai vu, racontez-le-moi. Alors je serai sûr que vous pourrez l'interpréter. Et alors ils ont dit, non, le roi demande quelque chose qui ne peut pas exister au ciel et sur la terre. Il a dit, bon, alors allez vos chemins, allez votre chemin. Alors Daniel vint, et aussi il a dit à Daniel, je vais vous lire encore une fois, le roi prit la parole et dit à Daniel, qui portait le nom, « Es-tu vraiment capable de me faire connaître le songe que j'ai vu, ainsi que son interprétation ?» D'abord, raconter le songe, voilà ce que tu as vu, voilà ce que c'était comme image, etc. Voilà ce qui t'a été montré. Et ensuite, voilà son interprétation. Ensuite, ça continue. Au verset 27, Daniel fit cette réponse au roi. Le secret que le roi demande à connaître, les sages, les évocateurs, les magiciens et les devins ne peuvent le faire connaître au roi. Amen. Ils peuvent raconter des histoires. Ils peuvent inventer des choses de près et de loin, noir et blanc. Mais des choses qui viennent de Dieu, aucun d'eux n'a pu les exposer. Ils peuvent, s'ils veulent lire, n'est-ce pas, les mains, etc., les lignes, etc., mais ils ne peuvent pas lire les lignes de la parole de Dieu. Il a été écrit encore ici. Mais il y a dans le ciel un Dieu. Alléluia! Alléluia! Mais il y a dans le ciel un Dieu. Le ciel semble loin pour les hommes, ils calculent, n'est-ce pas? Mais pour les croyants, il n'est pas si loin que ça. Ils ont la relation, la liaison qui dépasse le temps par la foi au Seigneur du ciel et de la terre. Il n'est pas seulement un Dieu qui est loin, il est aussi un Dieu qui est proche. Mais il y a dans le ciel un Dieu. Il n'a pas seulement dit, je suis le prophète dans le pays, et attends maintenant, comme Balaam a dit autrefois, attends, passez la nuit ici et moi je vais consulter Dieu. Non, il disait ici. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et c'est lui qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver à la fin des temps. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? il s'agissait? La fin des temps. C'était le commencement des empires païens. Et au commencement des empires païens, Dieu a fait connaître ce qui allait arriver à la fin des empires païens. Qui connaît la prédication de frère Branham, l'écriture sur la muraille? Là, frère Branham parle du commencement des empires païens et de leur fin. Mais il y a un Dieu au ciel. Alléluia. Il vit encore aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, les entrailles me remontent. Alors que de son temps, ce mouvement-là existait. Dieu est mort, Dieu est mort. Vous connaissez encore, il y a plusieurs années passées. Il s'appelait comme ça, Dieu est mort. Ah, il y a beaucoup de choses qui se passent à moi. D'entendre cela, je me suis dit à moi-même, j'ai pensé à moi-même. Est-ce qu'on pourrait une fois vivre un mouvement qui s'appelle Dieu vit, il vit. Un mouvement, Dieu vit, il vit. Et que nous puissions dire, comme il était écrit, il vit, comme Paul pouvait dire, il vit moi aussi, mort ou est ta frayeur. Mais pas seulement qu'il vive, mais qu'il vit en nous, avec nous. Et pas seulement qu'il agit, mais qu'il agit en nous, par nous, à travers nous, que cela soit une réalité sur terre. Que cela puisse être manifesté. Combien veulent vivre un mouvement de Dieu, du Dieu vivant. Amen, amen. Oui, Dieu vit. Le mouvement, Dieu vit, que ce soit le dernier mouvement. Il est écrit encore ici. Voici ton rêve, la fin du verset 28. Voici ton rêve et les visions qui se sont présentées à tes yeux sur ta couche. Pour toi, ô roi, des pensées se sont élevées sur ta couche au sujet de ce qui arriverait dans l'avenir. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? Il n'a pas seulement parlé au roi des images qu'il avait vues, des symboles, mais aussi des pensées qu'il a vues dans son songe. Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu qui connaît nos cœurs, nos pensées? Si devant le Seigneur, les pensées des hommes ont été révélées, alors l'ange, ici, n'a-t-il pas dit à frère Branham que les pensées des hommes parlent plus fort au ciel que leurs paroles? Pour toi, roi, des pensées se sont élevées sur ta couche au sujet de ce qui arriverait dans l'avenir. Et alors, des pensées se sont élevées sur ta couche au sujet de ce qui arriverait dans l'avenir. Est-ce que nous aussi, parfois, de telles pensées ne s'élèvent pas en nous? Le Dieu de Daniel est notre Dieu. Combien peuvent le croire? Que Dieu aussi parmi nous, peut laisser le même esprit de la révélation. Il peut le laisser se manifester pour que les pensées de cœur soient manifestées. Et que les pensées qui s'élèvent, n'est-ce pas? Nous ne voulons même pas les révéler, n'est-ce pas? Les pensées qui s'élèvent, parce qu'elles ne servent à personne. Mais des pensées de Dieu. Les pensées, quand ce sont les pensées de Dieu, en ce qui concerne les choses de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Et que c'est ça, les pensées que Dieu lui a données, c'est ça qui doit être révélé. Alors qu'il se demandait, mais comment est-ce que... Quand on se demande, mais qu'est-ce qui doit se passer, Seigneur? Qu'est-ce qui doit arriver? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Toutes sortes de pensées s'élèvent en nous, n'est-ce pas? Quand subitement, alors quelqu'un vient et dirait, frère Schmitt, mais le Seigneur ne vient pas, ne parlera pas comme ça, n'est-ce pas? Là, ce sont les gens qui parlent, qui apportent leur propre prophétie. Vous savez exactement, ils disent le nom des gens dans l'assemblée. L'Esprit de Dieu ne va pas dire frère ou bien sœur. Non. Mais je donne cela comme un exemple, simplement. Et si les pensées suivantes s'élèvent parmi vous, tu as pensé de quelle manière l'œuvre de Dieu doit être faite et continuée. Et alors nous recevrons la réponse, n'est-ce pas? Et je vous dis que le frère sauterait, nous sauterions, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passerait? Nous aussi, nous sauterions si, comme une biche, nous nous réjouirons. Si le Dieu vivant parmi nous révèle les pensées de ceux qui ont des pensées qui viennent de Dieu et qui concernent les choses de Dieu. Qui peut croire que Dieu peut manifester cela et qui peut commencer à agir de manière naturelle parmi nous et se manifester ainsi? Ces choses-là n'ont pas été et ses pensées ne sont pas seulement venues à ce Nabucodonosor, ce roi incirconcis-là. Hein? Si lui, des pensées de Dieu pouvaient être en lui, alors nous, à plus forte raison, Dieu peut aussi nous donner des pensées et nous donner la réponse concernant ce qui doit arriver. Alors subitement, nous entendons la réponse de Dieu, ce qui doit arriver. Encore cette pensée ici, je la lis, et alors nous allons finir. Pour toi, ô roi, des pensées se sont élevées sur ta couche au sujet de ce qui arriverait dans l'avenir. Et alors, celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Mais il ne savait rien. Il n'avait qu'un songe, rien d'autre. Vu qu'un songe, il devait d'abord, ce songe devait être interprété. Maintenant, le verset 30. Or, ce n'est pas à cause de ma propre sagesse, comme si elle existait en moi à un degré plus élevé que chez tous les autres vivants, que ce secret m'a été révélé. Mais dans le but d'en faire connaître l'interprétation au roi et de t'éclairer sur les pensées de ton celui qui continue à lire trouvera beaucoup de choses concernant la pierre qui se détache de la montagne sans l'intervention humaine. Celui qui continue à lire trouvera que ce Nabucodonosor, la nature humaine lui a été ôtée et que pour exactement 7 ans, et un cœur d'animal lui a été donné. Celui qui lit trouvera des choses sur ce qui doit se passer dans la fin des temps et se passera. Dans la fin des temps, qu'est-ce que c'était? Dieu a utilisé un roi païen et un royaume, un empire païen autrefois au commencement dans leur création et à la fin pour révéler ce qui allait arriver à la fin des jours. Qu'est-ce que nous devons dire? Je crois qu'il y a encore une action de grâce, ce serait bien si on pouvait la lire. Une prière dans Daniel 9, verset 17. Comme cela est mentionné ici, Daniel 9, verset 17. Et maintenant, exauce, ô notre Dieu, la prière et la supplication de ton esclave serviteur, et fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté à cause de toi, ô Seigneur. Je lis Daniel 9, verset 17. Frère Coupefeuille. Maintenant le verset 18, Daniel 9. Maintenant le verset 18. Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute. Ouvre tes yeux et regarde nos ruines et la ville qui est appelée de ton nom, car ce n'est pas sur la base des preuves de notre justice que nous présentons nos supplications devant toi. Non, c'est avec confiance en ta grande miséricorde. Ô Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis sans tarder pour ton bien. Toi, mon Dieu, car ta ville et ton peuple portent ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, cette parole est écrite qui est écrite aussi dans Apocalypse 10, verset 7. La parole tardée. Là, il est écrit: sois attentif et agis sans tarder pour ton bien. Le verset 19. Et là, il est écrit dans Apocalypse 10. Là, il est écrit: il n'y aura plus de délai. Apocalypse 10, verset 7, verset 6, la deuxième partie. Les choses que Dieu a annoncées à l'avance et qu'il a révélé. Vont s'accomplir Et je crois que nous vivons dans ce temps. Nous voulons regarder au Seigneur et savoir que nous pouvons nous attendre à plus d'attaques, plus de difficultés, mais aussi avec une conduite profonde dans l'esprit, dans la parole et dans la puissance et dans la présence de Dieu. Et l'une va avec l'autre. Maintenant, nous avons eu le temps. J'avais eu du temps. J'ai lu le prophète Ésaïe du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66 dans la Bible anglaise. J'ai lu du chapitre 40 au chapitre 66 dans Ésaïe. Et j'ai suivi les pensées qui ont été révélées dans ce chapitre. Quelle plénitude d'évangile, de pensée évangile, de l'évangile. Déjà dans cet amant. Comment est-ce que Dieu a révélé des choses à cet homme? Simplement merveilleux, glorieux. Et je crois que nous vivons dans le temps dans lequel toutes choses ont été révélées. Mais ça ne suffit pas seulement que à Daniel ou bien à un Ésaïe ou bien à un frère Branham et à Paul, ces choses aient été révélées, mais qu'elle t'ait aussi révélée, elle te soit révélée à toi et à moi. Apportons cela dans quelques phrases. Résumons ça en quelques phrases. Aujourd'hui, il s'agit des prières sincères qui concernent les choses de Dieu, le peuple de Dieu, la ville de Dieu et tout ce qui est appelé de son nom. Et ici, nous l'avons lu. Car ta ville et ton peuple portent ton nom. Le verset 19 de Daniel 9. Oh, comme nous pourrions aller dans Apocalypse chapitre 19 et dans Apocalypse chapitre 21. Là, le festin des noces. Et ensuite, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il vit la sainte ville de Dieu descendre, garni, paré comme une épouse. Tout. D'une manière, d'une harmonie si glorieuse. Son peuple porte son nom. Porte sa parole. Porte sa grâce. Et sa miséricorde. Tout. Ce que Dieu nous a accordé, nous l'avons reçu avec reconnaissance et nous voulons le porter. Mais dans la chose principale de cette parole que nous avons observée aujourd'hui, nous voulons reprendre ça avec nous, prendre ça avec nous, qu'il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets, qui révèle les secrets et les pensées du cœur et qui tout ce qui a été montré dans l'Ancien et le Nouveau Testament le révèle, est capable de le révéler. Ce que les sages et les enseignants et les intelligents n'ont pas pu savoir et interpréter. Dieu les révèle, car auprès de lui est la clarté. Et en ceux qui l'ont reçu de lui. Et celui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de raisons et de raisons, oui, de remercier notre Dieu. Nous voulons, n'est-ce pas, oublier nos propres besoins et requêtes et intercessions et supplications. Nous voulons les apporter au Seigneur, c'est vrai. Mais nous voulons commencer avec les choses de Dieu, les mettre à la première place et dire, Seigneur, aujourd'hui, il s'agit des choses que tu fais maintenant. Ta parole promise pour ce temps et ton peuple et l'appel à sortir de ton Église. Et la préparation de l'épouse, Seigneur, secours-nous, aide-nous, nous te le demandons. Et alors nous pourrons sûrement dans la foi, encore ajouter avec humilité, que rien ne, que tout ce que tu m'as confié, qu'aucun d'eux ne manque, que tout ce que tu m'as donné, qu'aucun d'eux ne manque, le Seigneur verra du haut des cieux que nous mettons que les choses qui sont, que ces choses sont à la première place dans notre cœur. Et alors il exaucera nos prières aussi pour ce qui nous concerne, notre famille, s'il voit que nous mettons son œuvre et son église et son peuple à la première place. Nous voulons le faire. Il y a un Dieu qui est au ciel, un Dieu. Pas qu'un seul, mais pas deux ou trois. Qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, la vie. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu vivant. Et comme nous désirons que nous puissions entendre et recevoir de lui un signe de vie dans l'Église et que nous puissions l'expérimenter. Et que nous aussi, comme auparavant, déjà remarqué, comment est-ce que cette campagne a été faite, hein, n'est-ce pas? Ils disent que Dieu est mort. Ils ont fait toute une campagne là-dessus. Mais que nous puissions faire une campagne avec le titre « Dieu vit ». Venez, Dieu vivant. Venez, Dieu vit. Amen. Venez voir, Dieu vit. Est-ce que nous voulons oser, dans la foi, faire confiance au Seigneur? Que nous puissions, qu'il branlera encore le ciel et la terre? Pas nous, mais c'est lui qui le fera. Mais notre devoir, c'est de croire qu'il le fera. Et que nous aussi, nous serons un peu aussi ébranlés, je veux dire, mouvementés. Nous devons, la dernière pensée, on ne doit pas toujours regarder à la montre. Alors que Daniel, vous savez, les autres devaient être morts. Si vous ne me révélez pas le songe, vous êtes morts. Et alors, Daniel est allé à ses trois amis, il a dit, priez avec moi. Vous avez entendu ce que le roi a annoncé. Celui qui ne peut pas dire est mort. Celui qui ne peut pas révéler son songe est mort. Et alors la réponse vint. C'était une situation de détresse et qui n'était pas bien. Mais c'est justement dans de telles détresses qu'on peut chercher la face de Dieu avec toute force dans la détresse et trouver sa face et dire, Seigneur, et après pouvoir dire, il y a un Dieu au ciel, encore aujourd'hui. Un Dieu au ciel qui révèle les secrets, les pensées du cœur. Un Dieu au ciel qui parle sur terre et qui agit sur terre et qui est parmi son peuple, parmi son église, dans son église. Ça, je ne le dis pas de moi. Mais un Allemand américain, il y a plusieurs années passées, a prêché ici, dans la rue, ici, Fezand. Et la parole anglaise, still, veut dire encore, encore une fois. God is still in his church. Ça veut dire Dieu est encore dans son église. Et ce pauvre homme qui connaît bien l'allemand, il a prêché à haute voix. Alors qu'il connaît bien l'allemand. Hein? Et le mot style en anglais, en allemand, veut dire silencieux. Alors il a dit en allemand, Dieu est encore silencieux dans son église. Hein? Il a fait un jeu de mots. Hein? Et nous tous, je pensais, mais dis quelque chose d'autre. Il dit aussi que Dieu peut être aussi à haute voix dans son église. Mais pourquoi tu dis, hein? Style en allemand, ça veut dire silencieux. Et en anglais, c'est encore. Et il dit, Dieu est encore dans son église, en allemand, en utilisant le mot style. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et les gens étaient tristes, n'est-ce pas, d'entendre cela. Mais quand nous l'avons corrigé, ils se sont réjouis. Quand nous avons corrigé cela, nous avons corrigé. Que Dieu n'est pas silencieux dans son église, mais qu'il vit et qu'il parle et qu'il agit. Croyez-vous tous? De tout notre cœur, nous le croyons. Et nous allons de l'avant avec le Seigneur. Amen.